La sociologie est un sport de combat. C'est le réalisateur Pierre Carle qui avait trouvé ce très bon titre en 2001 pour son documentaire consacré aux travaux du sociologue Pierre Bourdieu. Aujourd'hui, c'est un autre sociologue qui monte vraiment sur le ring pour enquêter sur la boxe et les hommes qui ont fait le choix de ce sport. Jérôme Bochez publie « L'empreinte du poing » aux éditions EHESS, un travail pour lequel il s'est lui-même entraîné dans un gymnase. Résultat, une enquête ethnographique passionnante sur le corps, les origines sociales, l'affrontement à l'autre. C'est le dossier cet après-midi de La Tête au Carré, en compagnie également du philosophe Bernard Andrieux. Et j'attends dès maintenant toutes vos questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé « l'attaque ». Et puis à la une de la science aujourd'hui, le coup de tonnerre dans le monde des vapoteurs, une étude japonaise mettra en évidence la présence de substances cancérogènes dans la vapeur de la cigarette électronique. Information ou intoxication? On fera le point avec le professeur Philippe Zer et notre médecin maison Dominique Dupagne. Voilà pour le sommaire de cette Tête au Carré, réalisée par Violaine Ballet, préparée par Sylvain Guilbeault, François Mercier et Gabriel Bennett.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Jérôme Bochez et Bernard Andrieux, bonjour.
Bonjour.
À tous les deux.
Bonjour.
Jérôme Bochez, est-ce que vous avez pris beaucoup de coups dans la figure pour mener votre enquête sur la boxe?
Vous voyez, les auditeurs ne voient pas, mais je pense que ça va. Je suis
oui, vous êtes,
peu
bien,
près,
vous êtes bien conservé quand même.
Je suis à peu près présentable.
Ouais, mais vous avez pris des coups quand même.
Oui, bah, inévitablement.
C'est ce que vous racontez dans ce livre, Bernard Andrieux. Est-ce que le scientifique doit savoir mouiller sa chemise et ressentir dans sa chair l'objet de son travail?
Oui, dans l'observation participante, il faut que le corps du chercheur ou de la chercheuse fasse l'épreuve du terrain. Donc on peut aller effectivement jusqu'à un engagement qui peut être presque total.
C'est ce qu'on voit justement avec notre invité Jérôme Bochez. On en parle avec vous dans quelques minutes, cet univers de la boxe que vous explorez depuis de nombreuses années. Une immersion sociologique et sensible dans ce monde singulier. On en parle avec vous dans quelques minutes et avec les questions et les témoignages en direct. Et à la une de la science aujourd'hui.
Tu triches?
Non, c'est seulement de la vapeur.
Ça ne fait rien.
Tu devrais essayer. La dépendance sans les conséquences.
Je te la laisse.
Extrait de la série House of Cards, et ce sont les vapeurs de cigarettes électroniques qui nous intéressent aujourd'hui, puisque selon une étude japonaise qui est sortie jeudi, les vapeurs de cigarettes contiendraient des substances cancérogènes. Cette étude a fait grand bruit, nous souhaitions en savoir plus. Philippe Zer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin généraliste, enseignant à la faculté de Paris Diderot. Vous donnez entre autres des cours sur le tabac et l'arrêt du tabac. Et puis notre docteur Dominique Dupagne qui est également avec nous. Bonjour Dominique.
Bonjour Mathieu.
Philippe Zer, est-ce que d'abord on peut se fier à cette étude sans craindre que l'industrie du tabac ne l'est financé?
Eh bien, on regarde la qualité de l'étude. C'est une étude japonaise publiée dans une revue internationale d'un factor 2, c'est-à-dire qu'elle est plutôt moyenne, avec une déclaration d'intérêt qui est plutôt non. Donc on peut penser que ce qu'ils écrivent, ils l'ont vraiment trouvé par leur propre recherche.
Oui, quand vous dites moyenne, ça veut dire quoi alors exactement?
Les chercheurs aiment bien publier dans des revues qui sont internationales et dont on reprend leurs traces. Et il y a un impact facteur qui donne un peu le niveau de la qualité de la revue, là c'est 2.
Oui.
C'est pas mal, mais les biens sont au-dessus de 5.
Voilà, et un assez grand écho dans les médias, Dominique Dupagne. Hein,
c'est le problème, c'est pas tant l'étude, c'est l'écho qui lui a été donné par la dépêche AFP, on va en reparler.
Et en quoi consiste cette étude exactement, Philippe Zer? Alors qu'est-ce qu'on y dit?
Eh bien, ce sont des chercheurs japonais, à la demande du service de santé japonais, qui ont recherché la présence de toxiques dans la sortie de les cigarettes avec un appareil à fumer. Ils ont pris des standards, un protocole canadien, et on a trouvé des produits, formaldéhyde, acétaldéhyde et l'acroléine, qui sont des produits de dégradation des substances qui sont dans les petites ampoules des cigarettes.
13 marques japonaises, hein, c'est ça, ont été étudiées.
Oui, à mon avis, c'est même le plus intéressant. Sur les 13 marques, certaines ont beaucoup de toxiques, parfois proches de la cigarette, et d'autres pas ou presque pas.
Dominique Dupagne?
En fait, on a cherché des toxiques qui se forment lorsqu'on chauffe des matières organiques. Ce sont des produits qui se forment aussi bien quand vous faites griller du pain, frire une poêlée d'aubergine ou un steak.
Oui.
Et en fait, le problème, on va en reparler, c'est la confusion qu'il y a entre ces toxiques potentiels et assez courants et assez répandus et les toxiques spécifiques du tabac fumé, brûlé, qui n'ont rien à voir. C'est un peu comme si on avait comparé le colorant des Smarties avec le colorant de la Morora en disant, ah bah tiens, le colorant rouge présente tel ou tel danger, alors que c'est intrinsèquement le contenu du produit qui est très grave. Et c'est là que l'étude pourrait paraître critiquable, mais eux, ils ont fait juste un rapport sur le contenu de la e-cigarette. Et en fait, on a traduit ça en comparaison entre une toxicité comparée de la cigarette fumée et de la e-cigarette, et c'est là qu'est le problème.
Philippe Zer, alors elles sont cancérogènes ou pas, ces vapeurs de e-cigarette, puisqu'il semblerait que l'étude l'indique. En tout cas, c'est ce qui a été repris massivement dans les médias. Hein.
D'abord, ils n'ont étudié que trois substances. Le tabac, la vraie cigarette, on a au moins 60 qui sont cancérogènes. Là, sur les trois, le formaldéhyde, qui est en fait du formol quand il est mélangé avec de l'eau, est une substance qui peut être cancérogène, certains. Et puis, les deux autres sont possiblement cancérogènes ou au moins irritants. Ça, il n'y a aucune dangerosité aussi importante que la cigarette.
Mais alors, comment il faut l'interpréter? Cancérogène, mais on ne doit pas s'inquiéter?
Non, et tout dépend aussi de la quantité de produit qu'on inhale. Le produit est cancérogène, c'est certain. Si on en prend peu, le risque peut être différent.
Alors voilà, c'est ce qu'il faut préciser. C'est-à-dire que dans le cadre de la cigarette électronique, on n'a pas de souci à se faire avec ces produits.
Quand on dit cancérogène, le Beaujolais nouveau est cancérogène. Il contient un cancérogène puissant qui est l'alcool. Le lepin grillé contient des cancérogènes. Et un hot dog contient des cancérogènes, si vous voulez. C'est pas parce qu'il y a un cancérogène dans le produit que le produit est vraiment dangereux. Et donc c'est toute l'interprétation qui doit être faite des quantités délivrées et du type de cancérogène dont il s'agit. Il y a le goudron d'un côté, qui est vraiment très cancérogène, puis l'autre côté, des irritants qui, à forte dose chez des rats, peuvent se révéler éventuellement cancérogènes.
Philippe Zer, comment il faut interpréter alors cette étude ?
Non, c'est ça. Les produits qui ont été mis en évidence ne sont probablement pas les plus dangereux. Ce qu'on observe dans le tabac, c'est de l'oxyde de carbone qu'il n'y a pas dans les cigarettes, ce sont des goudrons, ce sont des produits d'hydrocarbures, de la vraie fumée, parce que quand on vapote, il n'y a pas de la vraie fumée. Par ailleurs, les gens aiment bien avoir un petit peu de l'impression d'avoir une fumée, donc ce produit-là est dans l'ampoule de la cigarette, et c'est cette dégradation qui donne entre autres de l'acrolyne. On pourrait se passer de la fumée, l'impression de fumée qui est une fausse fumée. On peut probablement améliorer les quantités de produits toxiques qui sont dans les cigarettes.
Comment expliquer une telle différence entre les modèles d'une même marque, hein, puisque c'est ce qui a été étudié justement là avec ces Japonais?
Alors c'est ça le plus intéressant dans cette étude, je trouve. C'est il faut acheter une bonne e-cigarette fabriquée par un fabricant de bonne qualité, parce que on voit bien que dans cette étude, ça va de pas mal de produits toxiques parmi ceux qui sont étudiés à rien. Donc il ne faut pas prendre n'importe quoi comme e-cigarette.
Ouais, mais pourquoi on n'est pas capable de faire des modèles sans produits toxiques du tout, alors, puisque certains modèles justement le proposent?
Certains modèles proposent des produits toxiques qui sont en quantité inférieure, voire pas pour certains, mais ils ont tous un peu de produits toxiques. Plus on met de colorants, plus on met de saveurs dans les ampoules des cigarettes, quand elles vont être brûlées par le petit fil, il y aura un dégagement de produits toxiques.
Dominique Dupagne.
Oui, en fait, cette étude n'aurait pas dû avoir d'écho du tout. Tout est venu du fait qu'une agence a repris l'étude avec des termes un petit peu inquiétants, sans bien faire comprendre qu'il s'agissait de cancérogènes potentiels et totalement mineurs par rapport à ceux de la cigarette. Ça a été repris partout. Et il y a une espèce de mayonnaise qui est montée, mais qui n'est pas justifiée par le travail initial, qui n'est pas critiquablement lui, mais qui est, j'allais dire méchamment, un obscur rapport japonais sur des produits qu'on aimerait bien de meilleure qualité, mais qui n'ont tellement rien à voir avec la cigarette que c'est vrai que, en fait, ce qui se passe, c'est que la e-cigarette est quelque chose qui ne provient pas de la recherche scientifique, qui ne provient pas de l'établishment, qui ne provient pas de l'industrie pharmaceutique. Et il y a une espèce de rancœur, on a l'impression, par rapport à ce produit à qui on cherche plein de poux dans la tête, si je puis dire, parce qu'il est complètement à côté des circuits habituels de la recherche médicale.
Philippe Zer.
Oui, la cigarette a sûrement beaucoup, beaucoup d'avantages. On ne connaît pas les inconvénients. Les études vont sortir les unes derrière les autres, probablement avec d'autres produits toxiques. Et puis, est-ce que les autres questions qui seront plutôt, est-ce que de voir quelqu'un se servir d'une e-cigarette va donner envie aux ados de débuter le tabac? Ça, c'est tout à fait possible. À mon sens, pour l'instant, la dangerosité est plutôt le côté modélisant que les produits toxiques dans la e-cigarette.
Donc, le bénéfice penche largement en faveur de la cigarette électronique par rapport à la cigarette classique. C'est aussi le message que vous délivrez?
Oui, c'est probablement ça, mais l'ignorance fait qu'il faut se méfier un peu et attendre les prochaines études. En tout cas, il ne faut pas décourager l'utilisation des cigarettes actuellement.
Donc des études à mener pour poursuivre et voir si effectivement il n'y a pas des effets quand même indésirables?
Qui pourraient être embêtants, par exemple, pour ceux qui sont à côté ou ceux qui débutent le tabac.
Vous le pensez, vous, personnellement?
Pour l'instant, je ne décourage absolument pas la cigarette. Et pour ceux qui n'arrivent pas à arrêter par d'autres techniques, les substituts nicotiniques, les patchs en pratique, je conseille de prendre les cigarettes, oui.
Philippe, Dominique Dupagne, pardon.
Un truc très simple, en fait. Il vaut mieux rien fumer que fumer la e-cigarette, et il vaut mieux fumer la e-cigarette que fumer des cigarettes qui brûlent.
D'accord, voilà. Il y a différentes étapes, en fait. Voilà. C'est ça. Voilà, donc pour cette étude, on souhaitait avoir votre éclairage sur la question pour en savoir plus. Donc, on peut considérer qu'on puisse encore vapoter à peu près les yeux fermés en ce moment, et ça n'est pas cette obscure dure étude japonaise, comme a dit Dominique Dupagne, qui va nous inquiéter. Merci beaucoup Philippe Zer.
Merci.
D'être venu dans La Tête au Carré. Merci Dominique Dupagne. À très bientôt. Dans le reste de l'actualité scientifique, de nouveau venu chez les dinosaures. Un paléontologue britannique a analysé deux fossiles conservés dans un musée canadien classé dans la famille des Ceratopsidae. Il a découvert qu'il s'agissait en fait de deux nouvelles espèces. L'une d'elles était un dinosaure cousin du célèbre Triceratops. Muni de longues cornes frontales, cet herbivore de la taille d'un buffle vivait il y a environ 75 millions d'années. De la lumière sur du papier, des chercheurs américains ont réalisé une prouesse impressionnante en imprimant donc de la lumière sur du papier, technologie innovante qui a été baptisée Light Paper et qui permet de ne plus limiter la lumière aux écrans et aux ampoules. Les diodes utilisées pour ce procédé sont de taille encore plus réduite que celles utilisées pour les écrans plats. Elles peuvent donc désormais être incrustées dans des supports très fins comme une feuille de papier. Commercialisation prévue courant 2015. Et puis Science et Télévision, le groupe audiovisuel AB et le groupe de presse Mondadori s'associent pour lancer une nouvelle chaîne Science et Vie TV qui diffusera des documentaires sur la science. Elle viendra concurrencer la chaîne américaine Discovery Channel et va s'appuyer sur l'expertise du magazine mensuel Science et Vie, propriété de Mondadori. Cette chaîne devrait voir le jour au printemps 2015. TV on the radio dans La Tête au Carré.
La Tête au Carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
Les gens aiment la violence. En voiture, ils ralentissent à la hauteur d'un accident pour se rincer l'œil. Il y en a qui disent qu'ils aiment la boxe. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. La boxe est une histoire de respect. Se faire respecter, aux dépens de l'autre.
Extrait de Million Dollar Baby, le dossier de La Tête au Carré vous emmène dans les coulisses de la boxe cet après-midi. Jérôme Bochez, vous êtes sociologue, maître de conférence à l'Université Jean Monnet, c'est à Saint-Étienne.
Exactement.
Vous êtes membre du centre Max Weber et vous publiez L'empreinte du poing, la boxe, le gymnase et leurs hommes, c'est aux éditions EHESS. Et à vos côtés, nous avons souhaité inviter le philosophe Bernard Andrieux, qui est avec nous et qui est professeur en épistémologie du corps et des pratiques corporelles. Vous travaillez maintenant à la faculté du sport de l'Université de Rouen. Et votre dernier ouvrage, Bernard Andrieux, s'appelle « Donner le vertige, les arts immersifs ». C'est aux éditions Libère. Jérôme Bochez, pour vous, la sociologie, c'est vraiment un sport de combat, pour reprendre l'expression de Pierre Carle.
Au sens propre du terme.
Exactement.
C'est devenu un sport de combat, effectivement.
Comment vous avez été amené à explorer ce quotidien des boxeurs en devant, comme vous l'écrivez, en devenant l'ethnographe d'un micro-monde, c'est bien ça dont
exactement,
il s'agit,
exactement. Alors, plusieurs raisons à ça, je vais essayer de faire relativement court. L'ennui universitaire en est une.
Ah, c'est bien. Comme quoi, finalement, comme ça quoi. A du bon l'ennui aussi.
Exactement, l'ennui universitaire en est une parce que alors, j'ai été un court moment dans ma vie sportive de haut niveau, inscrit sur les tablettes, machin et tout.
Mm-hmm. Vous avez fait de l'aviron.
Voilà, je faisais de l'aviron. Et donc, ne sachant pas trop quoi faire, je me suis inscrit en STAPS, donc sciences et techniques des activités physiques et sportives, où je me suis profondément ennuyé,
oui.
Je dois le dire, en tant qu'étudiant. Et puis l'un de nos enseignants à cette époque-là, où j'ai fait STAPS, avait invité un jeune sociologue qui n'était pas encore très connu, qu'il est devenu par la suite évidemment, qui est même quelqu'un de référence dans la profession, Loïc Vacan, qui est venu nous raconter.
On l'avait reçu pour parler de Pierre Bourdieu d'ailleurs, pour lui rendre hommage.
Oui, bien sûr.
Et qui avait étudié la boxe lui aussi aux États-Unis.
Oui, exactement. Il avait fait alors il était venu nous parler de ça précisément, de son travail d'ethnographie d'un gymnase de boxeur dans le ghetto noir de Chicago, qui n'est pas loin de la fac, parce qu'il suffit de traverser une pelouse quasiment pour arriver dans les quartiers du South Side. Enfin bref, son idée, c'était de travailler sur l'économie souterraine des ghettos noirs. Mais il fallait trouver un terrain, une porte d'entrée dans ces ghettos. Évidemment, on ne pouvait pas aller au bas des immeubles, demander aux gars de raconter comment ils vendaient le crack, etc. Oui. Donc l'un de ses amis lui a conseillé d'aller à la salle de boxe. Pour rencontrer des gens qui, pour la plupart, venaient du ghetto. Et il s'y est pris tellement à ce jeu-là qu'il a fini par en faire un objet d'étude à part entière.
Ouais. Lui, il est monté sur le ring ou pas ?
Bien sûr, il s'est entraîné, il a combattu, etc. etc.
Ouais.
Et donc, l'écoutant raconter cette histoire, je me suis dit, tiens, première fois que je ne regardais pas ma montre pendant un cours à l'université. Et puis, je me suis dit, tiens, on peut faire ça. Puis, il se trouve qu'il y avait des raisons biographiques aussi. Je connaissais un certain nombre de boxeurs qui étaient proches de moi. Et quelques petites choses, évidemment, je n'étais pas capable de les expliquer, mais me dérangeaient dans la présentation qu'avait faite Loïc Vacan, que je trouvais par ailleurs brillante, mais notamment le fait qu'il oppose la rue et le ring, à savoir le code de la salle, les valeurs morales, etc., le ring, et puis la rue, le ghetto, ainsi de suite, en nous disant que c'était un îlot de sûreté, un espace protégé, la salle d'entraînement, par rapport à la violence sans rime ni raison qui régnait dans le ghetto. Moi, j'avais plutôt l'idée que... Enfin, j'ai eu l'idée progressivement que l'intérêt serait d'articuler les deux. C'est-à-dire qu'il me semblait bizarre qu'on puisse laisser au vestiaire tout ce qui nous constitue en tant qu'être social, c'est-à-dire quand on a été notamment socialisé dans des espaces où règne une certaine violence, etc. Je ne pense pas qu'on puisse, comme ça, laisser tout ça de côté.
Donc vous vouliez dépasser cette frontière symbolique.
J'avais pas envie d'une opposition, j'avais envie d'une articulation entre ces deux choses. Qui plus est, en me renseignant, je me suis aperçu que très peu de travaux avaient été faits sur l'espace français. Mmh. Il n'y avait quasiment rien sur les boxeurs. Un travail d'histoire écrit par André Roche, qui parlait un petit peu de la boxe dans les 30 Glorieuses, et puis un travail sur la boxe thaïlandaise, mais sur la boxe anglaise en France, il n'y avait rien.
C'est donc chose faite avec cette enquête que vous avez commencé il y a assez longtemps, puisque le travail d'observation, pour vous, ça a démarré en 99. Et c'est d'ailleurs aussi à cette date-là que vous êtes monté pour la première fois sur le ring aussi.
Exactement.
Puisque vous êtes vraiment engagé, vous avez aussi mis votre corps dans ce travail. Bernard Andrieux, on s'ennuie autant que ça, dites donc, à l'université.
Disons que la génération que représente Jérôme, et puis c'est précisément une génération qui va faire de l'engagement corporel non seulement un critère pour l'enseignement, mais aussi pour la recherche. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, ce type de travail est tout à fait important parce qu'on se sent concerné dans l'élaboration même de l'objet de la recherche. C'est-à-dire que le chercheur n'est pas étranger au terrain qu'il explore. Et dans une certaine mesure, les données qui vont sortir sont des données qui vont concerner le public et les lecteurs. C'est-à-dire quand on lit le livre, on se sent immédiatement embarqué dans un univers immergé. Et finalement, on va ressentir les différentes étapes qu'il a lui-même franchies pour arriver à pénétrer et à rencontrer surtout les acteurs.
Oui.
Parce que le point central, c'est que pour qu'une recherche soit effectivement intéressante, c'est qu'il faut aussi donner la parole finalement aux acteurs.
Et c'est grâce à ça d'ailleurs que vous avez pu faire cette enquête. C'est parce que vous leur avez proposé de leur donner aussi la parole. Même si au départ vous êtes arrivé alors vraiment dans ce gymnase. Alors d'abord, il se situe où exactement ? On est dans le nord de la France ?
Oui, dans le nord-est de la France, mais je ne révèle pas le nom de la ville exprès. Parce que vous savez que c'est une convention d'ethnographes que de protéger l'anonymat de leurs enquêtés.
Oui.
Enfin, leurs enquêtés, j'aime pas trop, ça fait appropriation des gens, les gens qui m'ont informé de la réalité de leur monde quotidien, plus précisément. Voilà, je préfère conserver l'anonymat.
Oui.
Mais quand je suis arrivé dans le gymnase, effectivement...
C'était pas en tant que sociologue.
Non, pas du tout. Alors, il y a une très bonne raison épistémologique, c'est celle de dire qu'on veut pas perturber ce qui se passe, etc. La vraie raison, elle est plus mauvaise, sur le plan, c'est que j'avais simplement peur de me faire foutre dehors, quoi. Donc, en disant d'emblée que je voulais faire un travail, etc., je me suis dit, comment on va me recevoir, quoi, ou justement ne pas me recevoir.
Donc vous êtes inscrit au gymnase pour prendre des cours de boxe.
Exactement.
Voilà. Et ça a duré combien de temps avant que vous leur disiez que vous étiez en train de faire un doctorat ?
Quelques mois.
Ouais.
Quelques mois.
Oui, on n'accède pas aux mêmes sources. Hein. C'est-à-dire que si je viens caché dans le terrain et que je viens pour apprendre la boxe ou pour rencontrer quelque chose, finalement je vais avoir accès à un certain type d'informations que je n'aurais pas si je fais ce que j'appelle un coming out méthodologique, c'est-à-dire où je dis attention, maintenant je suis chercheur, etc. Donc du coup, bien évidemment, dans la bascule et dans les informations qu'on va pouvoir recevoir, c'est deux positions différentes.
Ouais.
Sans doute qu'il faut occuper les deux, mais...
Il y a toute une polémique en ethnographie pour savoir si on peut faire de la covert ou de la overt ethnographie, comme disent les anglo-saxons, donc à couvert ou se révéler, avec tous les problèmes éthiques que ça peut poser.
Bah, vous avez fait les deux, au fond. Hein.
Voilà,
mais au départ, pour mieux vous révéler ensuite.
Parce que je ne pouvais pas concevoir de dissimuler mes objectifs d'enquête plus longtemps, et qu'en plus, si on veut avoir accès à d'autres données encore, faire des entretiens, recueillir des histoires de vie, comme je l'ai fait pour le livre, vous êtes bien obligé de dire que vous êtes là pour faire une enquête.
Ouais.
Mais la vertu, ça a été aussi de montrer les étapes de la socialisation du boxeur lambda que j'étais et dont j'ai pu vérifier qu'elle se reconduisait pour les autres qui...
Votre corps de sportif, à vous, Jérôme Bauchet, ça a été aussi une porte d'entrée quand même pour arriver dans ce gymnase. On n'arrive pas comme ça dans un tel milieu. Vous étiez aussi un peu sculpté quand même pour pouvoir rencontrer ces gens-là, non ?
Ouais, je manquais un peu de forme. De toute façon, c'est très spécifique de toute manière, la forme pugilistique. Quoi, on souffre énormément. Hein,
mais oui.
C'est vrai que j'avais un petit capital de départ, mais il a fallu le travailler ardemment, et j'ai beaucoup souffert dans les premières séances, parce que je pense, pour avoir pratiqué plusieurs disciplines, le sport le plus dur qui m'a été donné de pratiquer, c'est bien celui-là.
Bernard Andrieux, le corps, c'est aussi une carte d'identité quand même,
pour
arriver quelque part.
Oui, c'est une carte d'identité, et justement, dans son livre, Jérôme parle de la question du schéma corporel et de la recomposition de ce schéma corporel, c'est-à-dire quand on arrive dans une pratique, même si on a un capital, on a des habitudes, on a des techniques du corps, alors ça ne va pas être une décorporation totale, parce que bien évidemment, on va s'appuyer sur son capital, mais c'est quand même une transformation qui est faite de souffrance, de douleur, mais aussi de perte de repères, finalement.
Ouais. Il y a une question qui se pose sur franceinter.fr, et c'est Hubert qui nous l'écrit. Comment peut-on aimer la boxe ? C'est une question toute simple. Quel plaisir y trouve-t-on ? Est-ce que vous avez essayé aussi de répondre à ce type de questions ?
Alors non, je n'ai pas essayé de répondre à ce type de questions. Je ne sais pas comment on peut aimer la boxe. Ce que j'ai essayé de montrer, c'est comment on peut aimer les boxeurs. Finalement, et les aimer suffisamment pour avoir envie, non pas de rendre justice, parce qu'ils n'ont pas besoin de ça, mais avoir envie de leur donner la parole et qu'eux-mêmes expliquent les réalités quotidiennes de leur monde. C'est ça qui me semblait manquer dans beaucoup de travaux sociologiques, dans beaucoup de travaux journalistiques, etc.
Alors ça a été justement la clé pour vous dévoiler, hein, c'est de leur proposer, de leur donner la parole. Et là, il y a une surprise de leur part.
Oui, parce que alors, c'est un petit truc que je raconte dans le bouquin, effectivement. J'avais du mal à me révéler, donc j'ai utilisé un après-midi dans un bar, je décris un petit peu la scène dans le livre. Et alors, j'abats ma meilleure carte en leur disant qu'effectivement, je viens aussi pour faire un travail et que je veux leur donner la parole, ainsi de suite. Donc ils me demandent, mais c'est dans quel cadre, tu fais quoi ? Alors je leur dis, je prépare un doctorat. Et là, leur visage s'éclaire. Mais ça, docteur, c'est bien, on en a besoin à la salle. Et eux, leur monde quotidien est part trop éloignée de l'université pour qu'ils connaissent les subtilités de l'appellation des diplômes, etc. Dans mon cas, évidemment, ça n'avait rien de médical, le signifiant doctoral. Mais il y avait eu cette confusion-là. Donc j'ai été forcé de leur expliquer que non, ce n'était pas un docteur comme ça.
Il y avait,
ça existe aussi. Et ils m'ont résumé ça en disant, ouais, mais en fait, t'es un docteur qui sert à rien. Donc...
Bijoux pour passer cet après-midi ensemble sur France Inter. Tears in Heaven, Eric Clapton.
Punishment on the ropes as Dosteel bangs him with left and right to the head. Another left, another right to the jaw. And LaMotta turns around. He's been playing possum. He's got Dosteel hurt.
Et voilà, Raging Bull, Martin Scorsese. Ça fait mal, hein, même en l'entendant comme ça à la radio. 1980, ça fait partie de la filmographie Jérôme Bochaise, incontournable du monde de la boxe.
Ah oui, bien sûr.
Hein, comme bien sûr. Million Dollar Baby, d'ailleurs.
Comme Million Dollar Baby, comme d'autres films encore. Et la pratique pugilistique a été très représentée dans le cinéma et dans le cinéma américain. Peut-être parce qu'elle est une manière de mettre en scène le conflit. Ouais. Réduit à une forme intersubjective, comme l'avait fait Sartre dans La lutte est-elle intelligible. Il s'était saisi de l'exemple pugilistique pour travailler cette question du conflit.
Oui, on peut traduire pugilistique.
Boxe, rapport avec les... Voilà,
tout simplement. Voilà.
Et puis il y a une lecture aussi politique de la question que tu évoques aussi beaucoup, qui est la question de l'intégration finalement de populations qui se sentent stigmatisées ou qui sont stigmatisées, qui vont se... Donc il y a tout un imaginaire de l'intégration par le combat. Finalement, qui va se mettre en place, et que ce soit d'ailleurs avec Million Dollar Baby, avec la question de la femme aussi, qui était la question de savoir est-ce qu'une femme peut aussi faire de la boxe. Donc il y avait une sorte de renouvellement de cette question.
D'ailleurs, des femmes, vous en avez croisé très peu, il y en a une seulement hein, dans ce gymnase.
Effectivement, oui. Ouais.
C'était compliqué pour elle ?
Alors, ça a été compliqué sans doute par certains aspects, mais elle ritualisait sa féminité de sorte à s'aligner sur l'ensemble des comportements masculins. Voilà. Et comme elle n'avait pas d'adversaire féminine dans le gymnase, elle n'affrontait que des hommes. Alors, je rentre pas trop effectivement dans le détail de la question des boxeuses qui est traitée par d'autres sociologues parce qu'on n'a pas affaire au même gymnase. Dans les gymnases américains, il y a des femmes blanches de classe moyenne qui embrassent cette pratique de plus en plus massivement comme une forme de revendication contre la domination masculine, la masculinité hégémonique, etc. Dans le cas de Neyma, dans le livre, c'est pas vraiment ce type de combat-là dont il s'agit.
Nouvel extrait, quand même, de Million Dollar Baby, Clint Eastwood, en 2004.
Ça ne fait quel âge ?
J'ai 32 ans, monsieur Dunn. J'enterre une année de plus à récurer des piles d'assiettes et à servir des steaks. Et je fais ça depuis l'âge de 13 ans. Et si je vous ai bien compris, quand j'en aurai 37, peut-être que je saurai boxer. Et je dois dire qu'après avoir frappé cette fois pendant un mois sans aucun résultat, je suis en train de m'apercevoir que c'est pas vraiment gagné. À côté de ça, mon frère est en prison. Ma sœur a perdu son bébé, elle arnaque les services sociaux en leur faisant croire qu'elle l'élève. Mon père est décédé et ma mère pèse 120 kilos et des poussières. Alors si j'étais réaliste, je retournerais vivre là-bas. J'achèterais une caravane d'occasion, une friteuse, de la bière, du beurre de cacahuète. Mais le problème, c'est qu'il n'y a qu'en boxant que je me sens bien. Alors si je suis trop vieille, j'aurais tout raté. Ça ira, je vous en ai assez dit.
Voilà, avec cet exemple qui illustre bien ce que vous disiez tout à l'heure, Bernard Andrieux, sur le contexte social, évidemment. Comment on construit un corps de combattant dans ces quartiers populaires ? C'était l'objet aussi de votre travail.
Alors, il y a une chose, c'est qu'effectivement, il y a pas mal d'études sociologiques qui ont montré, depuis qu'on écrit sur les boxeurs en sociologie, c'est-à-dire depuis les années 1950, que la fréquentation du ring suit exactement, aux États-Unis comme en Europe, les vagues d'immigration. La logique migratoire. Bon, alors donc il y avait des Italiens, des Juifs aux États-Unis, puis ensuite, etc., etc. Et c'est bien la raison pour laquelle on a retrouvé, à partir des années 1970-1980, des Maghrébins en France qui ont pratiqué la boxe, des gens issus de toutes les latitudes africaines, etc. Bon. Mais il y a une chose que je voudrais dire, c'est que il est dangereux, me semble-t-il, d'expliquer la présence sur le ring en faisant simplement référence à une question de pauvreté. Ça va bien au-delà de ça. Et dans le petit extrait qu'on vient d'entendre, il n'y a pas une vie de pauvre qui est énoncée, mais il y a une sorte de vie pauvre qui est dite par l'actrice. Dans la mesure où sa vie est très très monotone, qu'il n'y a pas de perspective d'avenir, qu'elle se sent enfermée dans une condition sociale, etc. Et c'est contre cette vie pauvre. Parce qu'une vie de pauvre, c'est pas la question. On peut toujours faire de l'argent, on trouve des moyens, légaux ou illégaux. Ça, c'est toujours possible. Et dans certains réseaux de sociabilité que connaissent bien d'aucuns des boxeurs sur lesquels j'ai travaillé, c'était pas le problème. Le problème, c'était d'obtenir une reconnaissance sociale et de faire quelque chose de sa vie plutôt que rien.
Bernard Andrieux, le corps comme une résistance, précisément.
Oui, le corps comme une résistance à la fois sociale, mais aussi interne. C'est-à-dire que c'est aussi l'idée qu'avoir une pratique qui va nous permettre de ressentir effectivement des sensations internes, d'avoir une conscience du corps qui sera différente. Et donc, bien évidemment, il va y avoir des conséquences ensuite sociales dans l'extériorisation de ce corps. Donc, effectivement, l'opposition entre d'un côté, il y aurait du social, et de l'autre, il y aurait de l'intérieur. Je veux dire, c'est quelque chose qui peut être aboli justement dans ce type de pratique, comme dans d'autres pratiques qu'on analyse par ailleurs dans notre travail. C'est que finalement, le fait de vouloir activer en soi des sensations internes pour acquérir un nouveau schéma corporel, pour acquérir une nouvelle estime de soi, pour être reconnu finalement différemment de ce qu'on était précédemment, ça vient parce parce que précisément je vais rencontrer la douleur, le plaisir, l'affrontement, la limite, la force, la confrontation, etc. Donc un aspect aussi physique finalement à cette construction qui ensuite va avoir effectivement des conséquences sociales. Ça évite effectivement d'ethniciser, je veux dire, l'analyse comme effectivement Jérôme le montre très bien par rapport à une analyse classique de la recherche, finalement, de lecture sociale de la boxe.
Mais est-ce que ça s'était exprimé clairement par les boxeurs que vous avez rencontrés, interrogés, avec lesquels vous avez vécu, Jérôme Bochet, donc cette sorte de résistance face à cette vie, cette tristesse dont vous parlez là?
Alors évidemment, tristesse, je ne sais pas. C'est vraiment le sentiment d'une forme de non-sens et d'absence d'avenir, à un moment donné, d'enfermement dans une routine banlieusarde, etc., qu'on a envie de briser. Le terme de résistance, il résulte de mon interprétation. C'est un concept un petit peu éloigné de l'expérience. Il y a des concepts proches de l'expérience qu'utilisent les boxeurs. Être un bonhomme, jamais lâcher, tenir coûte que coûte, etc. Toutes ces choses-là, être dur au mal. Et en réunissant tous ces concepts proches de l'expérience, moi, je forge une interprétation qui est celle d'une résistance et d'une résistance qui passe par le corps. Mais c'est un geste herméneutique, c'est une interprétation du sociologue que je suis.
Larry nous dit ceci sur franceinter.fr. Les boxeurs ne seraient-ils pas les gladiateurs modernes? Gladiateurs qui étaient aussi une promotion sociale. Au lieu de mourir dans l'anonymat, ils mourraient dans la lumière, mais ils mourraient quand même. Bernard Andrieux.
Oui, disons que la question, c'est l'héroïsation, c'est-à-dire que finalement, la question de l'auditeur pose l'interprétation classique, à savoir finalement, pour s'héroïser, est-ce que je ne vais pas confronter mon corps finalement à un affrontement réel plutôt que symbolique, hein, puisque finalement, dans la société, nous sommes beaucoup dans des affrontements virtuels, symboliques, etc. Or là, on est dans des pratiques réelles, c'est-à-dire que pour construire véritablement une résistance à travers le concept que développe Jérôme, ou finalement quelque chose qui va nous permettre de plonger véritablement dans notre corps, eh bien, il va falloir participer effectivement. Alors, dire que c'est des jeux de gladiateurs, bien sûr, ça c'est l'image un petit peu classique, mais en tout cas, le jeu, c'est pas simplement un jeu JEU, c'est aussi un problème identitaire, c'est une construction finalement de l'identité.
Il y a beaucoup de boxeurs en France ?
Alors, il y a à peu près, si mes souvenirs sont bons, la Fédération publie les chiffres, 6000, un peu moins de 6000 boxeurs amateurs et professionnels confondus. Des professionnels, ceux qu'on appelle des professionnels, parce que encore faut-il savoir ce qui se cache derrière ce terme, sont un peu moins de 300. Et dans ces 300-là, on compte peut-être, allez, je pense, 5% qui peuvent vivre des gains, qui peuvent réellement vivre des gains de leur combat. Pour tous les autres, c'est un travail à côté. C'est-à-dire qu'il faut avoir un travail principal. C'est très dur quand on se prépare pour des combats, etc., que d'arriver à jongler entre une activité professionnelle et puis le travail du ring quotidien, parfois bicotidien, puisqu'on va courir le matin, on va à la salle le soir, et ça ne ramène quasiment rien en termes d'argent. Tout au plus, on peut se payer peut-être un petit peu des vacances ou des choses comme ça, mais enfin, c'est ridicule. On ne devient pas riche avec la boxe.
Bernard Andrieux, vous publiez donc aux éditions Libère « Donner le vertige ». Alors justement, c'est tout un travail sur le rapport au corps, là aussi, dans ce cas de figure très particulier qu'est le vertige.
Oui, c'est-à-dire que
le cerveau peut ressentir à ce moment-là.
Voilà, c'est-à-dire que dans la boxe, la question du chaos ou la question de perdre conscience, finalement, l'attention qu'on essaie de faire maintenant, c'est d'étudier la profondeur du corps et notamment ce qui va surgir de manière involontaire, finalement, à l'occasion de l'expérience. Et donc, s'interroger sur la perte de contrôle. Et donc notamment le vertige, c'est une expérience justement que moi j'éprouve moi-même. Donc c'est à partir
à quelle occasion ?
Depuis toujours, j'ai le vertige. Donc c'est à l'occasion justement de l'impossibilité d'arrêter cette expérience-là. Parce que quand vous montez...
Donc là, elle vous est imposée, en l'occurrence.
Elle m'est imposée par le corps, par le cerveau. Donc après, on peut toujours essayer de voir les raisons physiologiques, la surdité, etc. Bon, voilà. Mais finalement, ce qui nous intéresse, comme on l'avait fait pour la question de l'orgasme ou du vertige, c'est ces sensations internes qui viennent bouleverser, finalement, notre compréhension du schéma corporel. Et c'est pour ça qu'on a posé la question des arts immersifs, c'est-à-dire comment les gens, aujourd'hui, vont rechercher Et c'est aussi ce qui est un point commun avec le travail de Jérôme, c'est quand on lit le texte, finalement, très attentivement, on voit que, bien sûr, il y a la question de la reconnaissance sociale, mais il y a aussi la question de la reconnaissance sensorielle aussi de son propre corps, de rechercher des sensations internes à travers une expérience réelle qui va permettre de nous approfondir.
Et on va en parler ensemble dans la dernière partie de cette Tête au carré consacrée à la boxe avec d'autres messages pour vous sur franceinter.fr. Du signe Jean-Louis Murat.
Mathieu Vidard.
Ce qu'il lui faut, c'est un peu de chaleur humaine.
Jusqu'à 15h.
Je m'en occupe.
Sur France Inter.
Le sociologue Jérôme Bauchez avec ce livre « L'empreinte du poing, la boxe, le gymnase et leurs hommes » aux éditions EHESS. Et puis Bernard Andrieux, philosophe du corps et des pratiques corporelles avec « Donner le vertige », ça c'est aux éditions Libère. Jérôme Bauchez, vous avez tenté d'en faire aussi un livre quasiment de littérature, même si vous avez encore des termes de sociologie. Mais voilà, c'est pas des gros mots, mais bon, c'est vrai que l'accès est parfois plus compliqué. Mais en tout cas, c'est vrai qu'au travers aussi des portraits de ces boxeurs et cette boxeuse, que vous avez croisé, ça permet d'humaniser énormément votre sujet quand même.
Mais oui, j'assume le côté littéraire de mon livre, jusqu'à même presque le revendiquer. Ça agace certains collègues parfois, cette écriture un petit peu littéraire comme ça, mais l'ethnographie a toujours été marquée par ces expressions littéraires. Et c'est aussi la vocation de cette collection dans laquelle le livre paraît, la collection Quatre figures, des éditions de l'EHESS, que bien, d'amener la science et la science sociale sur la place publique.
Donc, exactement. Et c'est pour ça qu'on a autant de plaisir à aborder ce sujet plutôt inattendu d'ailleurs dans le domaine des sciences, Bernard Andrieux.
Oui, tout à fait. C'est la collection est tout à fait remarquable. Elle publie d'autres textes de cette qualité-là. Et c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut aller.
Jacques nous dit ceci. Si la boxe ritualise la violence, ce rite est-il cathartique ou promoteur socialement ?
Sans doute les deux. Et je voudrais dire une chose. Les boxeurs m'ont appris très tôt que, de leur point de vue, la violence ne se situe pas entre les cordes sur le ring. Parce que l'affrontement qui les oppose est un affrontement qui est consenti. Donc la douleur que peuvent générer les coups, c'est une douleur qui est acceptée. La violence, elle se situe souvent ailleurs. Et vous parliez à l'instant des ethnobiographies, des biographies de boxeurs. Mm-hmm. C'est dans les parcours de vie qu'on la voit poindre, la violence. La violence du non-sens qui frappe parfois les destins, qui disqualifie socialement, etc. Et dans ce sens-là, sans doute, pour répondre à votre auditeur, on peut dire qu'il y a un élément cathartique dans l'engagement corporel que demande la boxe, une manière de ritualiser la violence, puisqu'elle est encadrée par tout un corpus de règles, par une éthique spécifique qui est mise en pratique, etc.
La femme à la cam, c'est son nom sur Twitter, hein, nous écrit ce message. À mes yeux, le boxeur ou la boxeuse incarne la détermination et le courage plus que n'importe qui d'autre.
Sans doute, puisque à un moment, lorsque vous devez franchir les cordes pour affronter quelqu'un qui est d'une certaine manière votre alter ego, parce que grosso modo même taille, même poids, il y a une sorte de gémellité agonistique comme ça, vous pouvez pas reculer, quoi. En boxe, vous pouvez pas vous arrêter, ouais, quand ça fait mal.
Et il n'y a pas de pitié dans les coups. Et vous décrivez ce moment où parfois... Surtout pas de pitié. Où parfois on a des entrées, c'est-à-dire pour envoyer vraiment le coup de poing dans la figure. Et vous posez la question, vous hésitez à le faire.
Voilà, avec un de mes partenaires de sparring habituels, je le touche un soir durement lors d'un entraînement. Alors il a l'œil qui commence un petit peu à gonfler, etc. Je me confonds en excuses. Et puis j'ajoute ce truc que j'aurais jamais dû dire. Enfin si, justement, heureusement que je l'ai dit, puisque ça m'a appris, le code implicite s'est révélé à ce moment-là. Je dis, parfois je vois une ouverture, je peux frapper, mais je ne le fais pas. Et il me dit, ah non, jamais ça. Il n'y a pas de pitié, le pardon. On travaille ensemble, on peut se faire mal, on l'a choisi, on se pardonne, mais pas de pitié. La pitié, c'est de la condescendance, c'est du mépris. Vous voyez, et c'est aux antipodes de ce que veulent les boxeurs, de ce qu'ils veulent construire au gymnase.
Bernard Andrieux.
Oui, c'est aussi, et ça c'est très bien décrit par Jérôme, c'est la question de l'engagement dans le schéma corporel. C'est-à-dire que finalement, effectivement, quelqu'un qui... La posture du chercheur, il va hésiter à frapper. Et la personne qui est complètement engagée dans son corps, le cerveau va agir directement, de manière presque irréfléchie, involontaire. Il va produire l'acte parce que la technique est tellement incorporée, ouais, que finalement, tu ne te poses pas la question de savoir si tu vas faire mal.
Julien, sur Twitter, nous demande ce que nous pensons, enfin vous surtout d'ailleurs, du chess boxing.
Le chess boxing, c'est une expression qui était inventée, un sport de combat qui était inventé par Bilal dans son œuvre de bande dessinée et qui est ensuite devenu un sport officiel et qui consiste à faire une partie d'échecs et ensuite on joue un coup et ensuite on va faire un round, on joue un autre coup et on va faire un round. Donc il y a une sorte de mythe d'un sport total, ouais, finalement qui sera à la fois le sport de l'esprit et le sport du corps.
Ouais. Et ce qui va très bien d'ailleurs, Jérôme Bochet, c'est que votre description de la stratégie mentale du boxeur, c'est loin d'être un imbécile le boxeur, parce qu'il faut qu'il calcule, il faut qu'il fasse justement comme un joueur d'échecs,
très, très
qu'il anticipe les coups.
Je ne connaissais pas le chess boxing, moi pour ma part, mais j'utilise la métaphore des échecs dans mes descriptions des combats d'entraînement. Effectivement, lorsque je les décris, je mets l'accent sur la stratégie que développent les boxeurs sur le ring et qui montre bien que cette réflexivité pratique qui se développe au fur et à mesure des entraînements, etc., commande une intelligence des situations et que quelqu'un qui en serait dépourvu ne pourrait pas faire un champion ou s'imposer sur un ring. Il y a aussi une critique implicite dans cette manière de travailler des sociologies du sens pratique qui nous ont appris longtemps que la pratique corporelle de l'expert résultait d'une espèce d'habitualisation des schèmes pratiques. Dans le jargon des sociologues, on appelle ça la constitution d'un habitus, comme un système d'habitude qui vous habilite à agir. Que je respecte beaucoup par ailleurs, mais le problème de cette théorie-là, me semble-t-il, c'est qu'elle explique bien comment on habitualise un schéma corporel, comment on le prépare, on le dispose à une pratique efficace. Mais par contre, de cette théorie-là est complètement absente la question de l'image du corps, de la conscience somatique qu'on développe la conscience de soi engagée dans l'activité corporelle, voilà, qu'on développe dans une dans un sport ou et qui est le siège de tout un ensemble de stratégies, lesquelles stratégies s'appuient précisément sur les habitudes qu'on a constituées pour pouvoir libérer l'esprit et le tourner entièrement vers le fait de feinter, bluffer, ce que font tout le temps les boxeurs sur le ring. Ils appellent des coups pour que l'adversaire se découvre et voilà, il frappe, etc. Il y a tout un ensemble de conjectures pratiques comme ça qui fait ressembler ça à une forme au jeu d'échecs.
Bernard Andrieux.
Oui, oui, tout à fait. C'est aujourd'hui avec les travaux de Sean Gallagher, d'Alvan Noué, enfin de Melsov, tous ces travaux autour du schéma corporel se montrent que finalement il y a un traitement quasiment conscient et presque préconscient finalement de l'information et qui fait que la question de la feinte, la question de l'évitement, c'est quelque chose que je peux produire par mon corps pour déclencher finalement une réponse de la part du corps de l'autre. On est vraiment dans la question du traitement spontané de l'information.
Aurélie nous dit ceci. Il y a des filles, bien sûr, dans la boxe. Allez faire un tour au club Cajine, par exemple, dans le 11e, le soir ou le samedi matin. C'est plein de filles avec casque de protection qui pratiquent toutes sortes de sports où ça cogne. Leur préféré étant manifestement la boxe française.
Voilà. Mais elle a sans aucun doute tout à fait raison, puisque vous l'avez dit, hein, j'ai commencé l'enquête au début des années 2000 et depuis, effectivement, beaucoup de femmes se sont engagées dans les pratiques pugilistiques.
Jean-Pierre nous dit ceci, je travaille actuellement sur un documentaire traitant de la boxe dans le milieu carcéral. Peut-on être boxeur sans combattre? Et contre qui se bat-on sur le ring?
Vaste question. Contre qui se bat-on sur le ring? Chaque boxeur apporte ses réponses, en tout cas... Il me semble, et c'est ce que j'essaye de montrer dans les biographies, que l'adversaire se constitue en rapport avec chaque histoire. Et que l'adversaire sur le ring est une manière de matérialiser les adversaires qu'on n'a pas pu combattre réellement. Est-ce qu'on peut être un boxeur sans combattre? Il fait sans doute référence au milieu carcéral où on ne peut pas toujours... Alors, certains boxeurs que moi j'ai connus allaient parfois en prison, en maison d'arrêt, pour monter sur le ring avec les détenus
et faire des combats. Voilà, justement, voilà, à ce moment-là.
Ça arrivait.
Le sparring, donc, vous avez employé ce mot tout à l'heure, les combats d'entraînement, ça c'est un rite de passage, hein, au fond.
Pas que, c'est d'abord un rite de passage pour effectivement, quand vous êtes débutant, le moment où vous allez monter sur le ring la première fois est effectivement un rite de passage sur le chemin de votre construction de combattant. Ouais. Mais c'est surtout un outil tout à fait indispensable, quoi, pour éprouver la situation de combat.
Et pour vous, c'était en décembre 99, votre premier sparring face à un ancien basketteur, 1m90, 100 kilos face à vous, un peu plus grand que vous quand même. Hein.
Oui, oui. Ah oui.
Et vous avez pris vos premiers coups au visage aussi.
Oui, bien sûr. Oui.
Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là?
Beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit d'abord que les coups font mal, d'une part. Et ils font de moins en moins mal quand on a l'habitude du sparring, mais ça fait toujours mal quand même. Et ce que j'ignorais, bien évidemment, à ce moment-là, c'est que la situation... qui me paraissait à moi complètement réaliste, etc., avait été très contrôlé par l'entraîneur qui, lors de ses baptêmes du sparring, restreint, freine beaucoup l'adversaire et choisit expressément quelqu'un de beaucoup plus avancé que vous dans la pratique de la boxe.
En lui donnant des consignes
qui
aussi.
Qui vous protège.
Pour réserver l'autre.
On voit très bien cette idée de progression, de progressivité dans la conquête de sa propre sensorialité. Hein. Finalement, il y a une progression, il y a un ordre symbolique aussi dans la conquête de ces différentes sensations.
Et dans son acceptation.
Et dans l'acceptation,
finalement,
l'étonnement aussi que tu décris, hein, finalement, par rapport aux différences entre la manière dont on a été construit et puis ce qu'on reçoit qui nous oblige finalement à nous adapter.
Oui. Et puis ces personnages, évidemment, hein, ces récits qui sont vraiment au cœur aussi de votre livre, Louis l'entraîneur, donc de ce gymnase, cette salle des grandeurs, comme il s'appelle dans le livre, Mourad, Naïma, on en a parlé tout à l'heure. Donc vous avez fait connaissance avec ces gens-là au début des années 2000. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, là? C'est quoi leur parcours?
Alors, l'idée, c'était de vraiment passer du sens pratique qu'on a décrit avant, avec toutes les critiques qu'on peut faire, au sens de la pratique, c'est-à-dire à la manière dont eux perçoivent leur engagement pugilistique. La plupart des personnes que j'ai croisées, vous avez dit, c'était au début des années 90, 2000, pardon, pas si vieux que ça, ne font plus de boxe aujourd'hui. Très peu sont encore engagés dans la carrière.
Pourquoi ils arrêtent?
Ben parce qu'ils ont vieilli, tout simplement, et que la boxe n'est jamais qu'un chemin pour la plupart d'entre eux. C'est-à-dire que les carrières, je pourrais en parler longtemps, mais ça ne va pas être possible. Les carrières ne sont pas des carrières rêvées comme au cinéma. Souvent, il y a des embûches, très peu deviennent champions. Et les quelques boxeurs que j'ai croisés là ont donné 2 ou 3 champions, ce qui est déjà très bien. Mais pour les autres...
C'est terminé.
Oui.
Merci beaucoup Jérôme Bochez, l'empreinte du point, la boxe, le gymnase et leurs hommes, édition EHESS. Et puis Bernard Andrieux, Donner le vertige, c'est aux éditions Libère. Je voudrais également vous signaler une série magnifique de 5 films courts en son spatialisé qui sont en ligne depuis hier. Ça tombe bien, c'est le hasard de la programmation sur Radio France. Une fille qui boxe dans les coulisses d'un combat de boxe féminin. C'est France Culture qui propose ces films magnifiques. Vous allez sur franceinter.fr, page fille qui boxe et vous trouverez ces films super. Merci beaucoup à tous les deux. Bon retour à Saint-Étienne et à Rouen.